Vous écoutez RTL. Bonjour avec vous. La curiosité est un vilain défaut.
En 610, l'année même où l'empereur Héraclius prenait le pouvoir à Byzance, Mahomet entame à 40 ans sa mission prophétique.
RTL.
Le Dieu créateur, d'emblée affirmé, lui commande de lire et de transmettre ce que sera le Coran.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est aujourd'hui la première religion au monde. L'islam est tous les jours ou presque au cœur de l'actualité. Mais connaissez-vous l'histoire de Mahomet, le prophète, le messager de Dieu? C'est cette histoire que nous allons découvrir maintenant grâce à notre invité, Malek Chebel. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes philosophe, spécialiste des religions, auteur de nombreux ouvrages sur la civilisation islamique. Depuis des mois, un nom a fait irruption dans l'actualité, l'État islamique en Irak et au Levant. Et malheureusement, c'est encore une fois... avec des attentats, avec des menaces, avec des décapitations qu'on parle de l'islam. Est-ce que c'est pour contrer finalement cette offensive-là, cette image-là que vous écrivez des livres ?
Tout à fait, et puis je ne suis pas le seul. Je pense que l'ensemble des musulmans sont choqués par la tournure des choses et donc se défendent comme ils peuvent. Malheureusement, ils n'ont pas suffisamment l'occasion de le dire.
C'est important de pouvoir prendre la parole publiquement pour donner une autre image de l'islam et ce soir de Mahomet.
Absolument, moi je le pense vraiment. Parce que la méconnaissance, vous savez, l'ignorance, elle est la mère de tous les maux. Pas tellement la curiosité, à mon avis, mais l'ignorance, c'est sûr.
La curiosité, c'est plutôt une qualité. En tout cas, c'est ce qu'on démontre tous les soirs ici. On va donc apprendre, grâce à vous, qui était Mahomet. Alors, des questions toutes simples pour démarrer. Où et quand est-il né ?
Il est né en 570, donc dernier tiers du 6e siècle, à La Mecque. C'est un Mécois. La Mecque, qui est aujourd'hui le centre de gravité, si vous voulez, de l'ensemble de l'islam. Et il est mort à Médine en 632.
Est-ce qu'il s'appelle Mahomet ou est-ce qu'il s'appelle Mohamed ?
C'est Mohamed, mais comme les islamologues, les premiers islamologues étaient des islamologues occidentaux, ils n'arrivaient pas à prononcer le H, le H, si vous voulez, guttural. Donc ils ont simplifié en disant Mahomet, encore qu'au Moyen-Âge, on disait Mahomet ou Mahomet. Parce qu'à un moment donné, il y a une dérivation ottomane, Mahomet, Mehmet, Mehmet II par exemple, c'est Mahomet tout simplement transformé en turc.
D'accord. L'Arabie, c'est un pays unifié à cette époque, à la naissance de Mahomet ?
C'est un pays qui n'était pas un pays, à vrai dire. Il y avait toute une confédération de tribus qui s'opposaient les unes aux autres avec un code chevaleresque qui les maintenait dans une paix relative. Il y avait des juifs, il y avait des byzantins. Il y avait donc des Byzantins qui étaient des chrétiens, des chrétiens d'Orient évidemment, et des Arabes bédouins païens. Donc ça faisait une mosaïque de croyances, de pratiques relativement confortables et sympathiques parce que pour le coup, elles se faisaient pas la guerre. Ce qui comptait le plus, c'était le commerce.
Malek Chebel, quel est le dieu, ou plutôt qui sont les dieux des Arabes à l'époque de Mahomet ?
Oh, il y avait une pléiade de dieux, c'est de divinités tutélaires. Tabari, le plus grand historien de l'islam au 9e siècle, avait compté 360 dieux. C'était des divinités, très exactement. Nous sommes dans une sorte de polythéisme, bien qu'archaïque, mais polythéisme quand même. Et parmi ces dieux, il y avait un dieu qui a l'air d'être proéminent, le plus important de tous, qui s'appelait Ilah, et qui est devenu Allah avec l'arrivée de l'islam.
La Mecque, c'est la ville de naissance de Mahomet, vous le disiez. Est-ce qu'elle est déjà sacrée à l'époque ?
Non, elle n'est pas sacrée. Elle était une ville plutôt païenne, pas très joyeuse comparativement à Médine, en réalité, et très, très conservatrice. C'était de grandes familles qui tenaient la Mecque, et donc elles étaient riches. Et la richesse n'entraîne pas beaucoup la révolution, et donc, du coup, ils étaient plutôt... orthodoxe.
D'ailleurs, la famille de Mahomet tient un rôle important à La Mecque.
Alors lui, il est venu d'une famille Quraysh, la tribu des Quraysh, qui tenait La Mecque parce qu'elle tenait l'eau. Elle disposait des puits, si vous voulez, qui servaient les pèlerins, etc., et les marchands. Mais lui, il est venu d'une branche désargentée de cette famille qui était riche. Donc au fond, sa famille, grande famille riche, mais lui, il est pauvre. Il était pauvre.
Qui l'a élevé ?
Ben, sa mère et son père est mort alors qu'il venait à peine de naître, qu'il n'était peut-être même pas né, parce qu'on n'en est pas très sûr. Donc il est élevé selon la tradition par des nourrices dans le désert, parce qu'à l'époque on était écologistes, si vous voulez, donc on envoyait les enfants de la ville chez les bédouins. Donc il était élevé par une bédouine, Et au départ, c'était d'abord son grand-père, après son oncle. Et puis finalement, il a grandi un peu entre dans la grande famille, on va dire, parce que c'est l'usage chez les Arabes anciens de s'élever mutuellement, parce qu'il n'y a pas de famille mononucléaire, si vous voulez.
Il n'y a pas de représentation de Mahomet, c'est interdit dans l'islam, c'est ça ? Est-ce qu'on sait à quoi il ressemblait ?
On ne sait pas à quoi il ressemble. On a des descriptions très détaillées, mais chaque auteur avait sa description. Donc du coup, on avait plusieurs typologies.
On ne sait pas vraiment.
On ne sait pas s'il avait les cheveux longs, s'il était coiffé d'un turban, s'il avait une blouse blanche comme aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de représentation figurée, il n'y a pas de figuration. Bien que la chose ne soit pas totalement interdite par l'islam, il n'y a pas le problème des iconoclastes comme chez les chrétiens. Mm-hmm. Mais l'usage voulait que représenter le prophète était un peu représenter Dieu, donc on a abandonné cette piste-là.
Vous allez nous raconter, Malek Chebel, d'où vient la vocation, la révélation de Mahomet. À quel âge a-t-il cette révélation ? On vous raconte l'histoire du prophète dont se réclament aujourd'hui 1 milliard 300 millions de personnes. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous fait découvrir ce soir l'histoire de Mahomet, le prophète, le messager de Dieu pour les musulmans qui forment aujourd'hui la première religion monothéiste au monde. Malek Chebel, vous êtes philosophe, vous avez écrit de nombreux livres sur la civilisation musulmane. De quand date la vocation de Mahomet ?
Ben, tout jeune, on ne sait pas grand-chose de lui. Finalement, son enfance, sa jeunesse, elle est passée par pertes et profits parce que personne n'ose, si vous voulez, décrire quoi que ce soit du prophète avant qu'il soit prophète. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tabou et ils ont peur de l'offense. Ils ont peur de l'offenser, même à le plébisciter, à le présenter comme quelqu'un d'héroïque. C'est déjà une offense. Alors, sa vocation date de sa 40e année. Jésus est mort à 33 ans et le prophète Mohammed ne commence à être prophète qu'à 40 ans.
Il a une révélation ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une révélation pure et dure, si je puis dire, parce qu'il aimait aller faire des retraites dans une montagne voisine et un jour, il reçoit une apparition qui lui apprend quelques versets du Coran, qui lui dit de lire à la suite de cette révélation, à la suite de cette apparition. Donc après coup, on a établi que c'était l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui demande de réciter après lui les versets du Coran.
Donc ces messages sont à la base du Coran.
C'est le Coran.
C'est le Coran.
C'est le Coran lui-même. C'est que chaque fois qu'il reçoit une révélation, il la transmet à ses scribes, qui la notent, qui l'apprennent par cœur. Il y a même un corps de métier qu'on appelle des huffaz, c'est des gens qui apprennent par cœur le Coran. C'est pourquoi il n'a pas beaucoup eu de déperdition. Exactement, quand on dit est-ce que le Coran c'est le Coran du prophète ou pas, mais les gens l'apprenaient par cœur, c'était quelque chose de sacré. Donc, il le transmettait à ses secrétaires, en quelque sorte, et ça se transmettait comme ça.
Du coup, qui sont ou qui seront les premiers musulmans, Malek Chebel ?
Alors, la révélation, peut-être ce soir, le premier musulman de l'islam, c'est une femme, c'est une musulmane. C'est sa femme, c'est Khadija, qui l'a épousée peu de temps avant qu'il devienne prophète. Et c'est elle qui l'a encouragé, c'est elle qui le pousse à approfondir cette direction-là, parce qu'elle lui dit « tu es prophète » et donc elle est la première musulmane du monde.
Alors on est obligé d'avancer un peu vite dans le temps, on ne peut pas faire toutes les étapes, mais il y a une étape essentielle qu'il faut raconter, c'est l'arrivée de Mahomet à Médine, quand il devient le maître de la ville. Est-ce que c'est là que son histoire prend une dimension politique ?
Tout à fait. C'est que juste entre la Mecque et Médine, à peu près une dizaine d'années, il arrive à Médine, qui s'appelait Yathrib à l'époque, c'est une oasis assez riche et opulente, qui l'accueille parce qu'elle a vu les enjeux, le bénéfice commercial et économique que le prophète allait entraîner pour booster le commerce de Yathrib. Elle devient Médine, de l'arabe Médine Sénabi, c'est la ville du prophète dont on a fait la réduction Médine, mm-hmm. C'est juste la ville.
C'est une sorte d'arbitre quand il arrive dans la ville, les clans qui se battent entre eux.
Ce sont les clans de Médine qui ont souhaité qu'ils viennent. Et sans être l'arbitre vraiment des clans de Médine, mm-hmm. Il a été l'élément, le ciment, si vous voulez, de la société de Médine. Et il le désirait. Il l'attendait comme un prophète, comme un messie. Très exactement. Alors que, justement, la Mecque le pourchassait. le prophète Mahomet, Mohammed pour nous, a tous les critères du prophète, c'est qu'il est, il est né orphelin quasiment, pauvre, il s'est battu contre sa famille, il a été pourchassé par son clan, il a failli mourir, etc. Et donc il s'est battu contre toute l'hostilité, né dans sa tribu directe. Et donc il arrive à Médine comme un triomphateur en quelque sorte, puisqu'il était attendu, le Messie, mais le mot Messie ne s'applique pas au prophète, il s'applique à d'autres prophètes. Mmh. Et de là démarre son histoire en 622, commence l'Hijr, et c'est pendant 10 ans, de 622 à 632, qu'il va professer l'islam.
622, c'est le démarrage du calendrier musulman.
Absolument.
Également.
C'est l'an 1 et l'an 0 de l'islam. Mmh.
Est-ce que c'est dans ces années-là que les musulmans vont se tourner vers la Mecque pour prier ?
Alors, c'est une longue histoire, mais je la fais courte. Au départ, c'était Jérusalem, et un jour, le prophète reçoit une révélation. Il était entre Médine et la Mecque, et qui lui dit il faut se tourner vers la Mecque. Et c'est là qu'ils se tournent vers la Mecque, dans une prière. Mm-hmm. C'est au cours d'une prière. Au départ, ils étaient vers Jérusalem, ils reçoivent la révélation, ils se tournent immédiatement, au moment de la prière, au milieu de la prière, vers la Mecque. Et on appelle cette mosquée-là, il y a une mosquée qui existe encore, la mosquée des deux Qiblas. Qibla, c'est l'orientation de la Mecque. C'est la mosquée des deux Qiblas, puisqu'elle a abrité, si vous voulez, le changement de direction suite à une révélation. C'est assez extraordinaire.
C'est de Médine également que partiront les armées de Mahomet. C'est un prophète guerrier, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, on peut le dire. Moi, je le dis en tout cas. Donc, je m'autorise à le dire. Parce que le prophète, prophète Mohammed en question a été un prophète, un homme guerrier, un époux, et un homme sociétal, si vous voulez, un homme d'échange et de dialogue. Voilà.
Pourquoi il fait la guerre, Mahomet ?
C'est pas lui qui fait la guerre. Il fait la guerre parce que il lui a été intimé l'ordre de faire la guerre pour islamiser les païens. C'était aux sans-religion, aux gens qui n'avaient pas de religion, donc les bédouins autour de la Mecque, à qui il devait faire la guerre parce que c'est des païens qui devaient ramener au monothéisme, au Dieu unique.
C'est de là que vient le mot djihad ?
Djihad, c'est un mot sémantiquement complexe, c'est-à-dire il y a deux aspects. Il y a l'aspect guerrier et l'aspect intellectuel de dépassement de soi. On dit un jour au prophète, revenant d'une grande razzia où il a été vainqueur, on lui dit, mais au prophète de Dieu, vous avez l'air sombre, qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes malheureux. Il leur dit, hélas, oui, parce que nous quittons la petite djihad, qui est la guerre sainte qu'il venait de gagner, nous allons vers la grande djihad, qui est le dépassement de soi. C'est-à-dire l'amélioration de ses qualités morales, etc. Le Tao, pour les taoïstes. Donc, c'est pourquoi les musulmans éclairés, si vous voulez, militent beaucoup pour mettre l'accent sur la grande djihad, qui est la djihad sur soi, la djihad morale, la djihad éthique, si vous voulez, et la petite djihad, la laisser aux tout-venants, que sont les intégristes musulmans.
Malek Chebel, aujourd'hui, les djihadistes, ils puisent leur conviction, la justification de leur propre combat dans ces batailles de Mahomet, les batailles de Mahomet.
Ouais. Oui, tout à fait. Pour eux, dans leur utopie un peu inversée, un peu folle, un peu paranoïaque, ils remontent au 7e siècle. Nous sommes au 21e. Ils remontent au 7e siècle avec des blancs génétiques, si vous voulez, de plusieurs siècles entre le 7e siècle et aujourd'hui, puisque l'islam a vécu sa vie. Il a acquis une civilisation. Il est devenu une religion de paix, une religion de science, une religion de mathématiques, une religion de poésie. Mais eux reviennent, ils zappent tout ça, si vous voulez, 13 siècles de culture, et ils reviennent au 1er siècle, et voire aux premières années du prophète, pour fonctionner, pour agir, comme s'ils étaient des prophètes. Et en plus, dans l'islam, il est dit que seul le prophète avait la pertinence d'établir la licéité d'une guerre sainte ou pas. Donc eux, ils fonctionnent comme des prophètes du 7e siècle, en Arabie, dans l'Arabie bédouine, en faisant, en gommant, si vous voulez, les 13 siècles de civilisation.
Mmh. C'est en 630, à l'âge de 60 ans, deux décennies après sa première révélation, que Mahomet entrera en vainqueur à la Mecque. Il ne sait pas qu'il ne lui reste que 2 ans à vivre. On vous raconte la fin de sa vie dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Il était de taille moyenne. Son teint était d'un blanc rosé. Ses yeux étaient noirs.
RTL.
Au fil des siècles, l'islam de Mahomet ira à la rencontre des peuples du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, plus d'un milliard d'hommes et de femmes se réclament d'un même livre, le Coran. D'un même prophète, Mahomet.
Jusqu'à 22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, le chiffre, c'est 1,3 milliard de musulmans. C'est même plus que ça.
1,8 milliard selon le Vatican. Parce que celui qui a les meilleurs chiffres...
C'est une bonne source.
c'est Rome. Nous, on se fie à Rome.
Malek Chebel, le philosophe, est notre invité et nous fait découvrir la vie de Mahomet depuis quelques minutes. Je parlais tout à l'heure du paradis. C'est une notion qui existe dans la religion musulmane?
Tout à fait. Paradis et enfer. D'ailleurs, très contrasté. Forte description de l'enfer, où va bouillir, si vous voulez, le mécréant, celui qui est le maudit, enfin le, et le paradis également, forte description du paradis qui vous donne envie, en effet, qui est sublimissime à tout point de vue, donc tout est fait pour vous accueillir, on n'attend que vous, et surtout si vous êtes un homme, vous allez être dans les bras de fées magnifiques qui s'appellent des houris. Et donc ça tourne la tête un peu à beaucoup de jeunes qui n'ont pas évidemment de la rationalité avec laquelle je vous présente les choses et qui considèrent que le paradis c'est tout de suite et c'est d'entrée de jeu quoi. Il faut juste aller se scratcher sur un tour pour y être le lendemain. Si vous voulez
dire que c'est pour ça que certains musulmans acceptent la mort, vont vers la mort? On parle
beaucoup,
des djihadistes
beaucoup
notamment.
d'idéologues utilisent cet artifice redoutable, c'est un narcotique puissant. Il vous dit vous avez le paradis au bout du tunnel. Vous souffrez ici et vous quintuplez votre effort dans le paradis en bien et en bienfaits de toutes sortes. Donc il y a des jeunes qui sont un peu paumés ici-bas, qui se disent que peut-être j'ai une chance dans l'au-delà.
Vous avez écrit de nombreux livres sur l'islam, notamment pour les rendre accessibles à tous en publiant l'islam pour les nuls ou le Coran pour les nuls aux éditions First. Votre objectif c'est quoi, Malek Chebel? C'est de lutter contre les idées reçues?
C'est de lutter contre les amalgames en sachant que le mot amalgame est de l'arabe, ça vient de l'arabe et ça veut dire amel jema, c'est l'acte charnel de rencontre d'un homme et d'une femme. On dit amel jema.
Donc pour ne pas c'était être un joli mot qui a été totalement détourné.
Mais ceci étant, pour faire de la pédagogie par ces temps de folie, je pense que c'est ça mon objectif. C'est un objectif assez ambitieux parce que les gens ne vous écoutent pas. Quand vous êtes une voix de la raison, toute menue, toute frêle, qui dit arrêtez de vous battre et parlez-vous, dialoguez, respectez-vous. Qui va vous écouter en disant ça? C'est pas possible. Donc, et moi, je prétends que, au-delà de la pédagogie, ce sont les concepts, les idées. Quand les idées sont tranchantes, elles feront leur chemin. Et donc, pendant 30 ans, c'est exactement ce que je fais.
Et est-ce que vous prenez des risques d'une certaine façon quand dans votre dernier livre L'érotisme arabe, vous parlez du prophète? Qu'est-ce que vous racontez sur le prophète dans ce livre?
Je raconte que la stricte vérité du prophète lui-même qu'il a vécu. Il a épousé 9 femmes. Ça a été un polygame, si vous voulez, exemplaire, de certaine manière, le parangon de tous les musulmans. Et je raconte aussi ce que disent de lui des historiens, les gens, les compagnons qui ont vécu avec lui. Les beaux-pères, les cousins, etc. Donc, je raconte donc l'histoire vraie, mais secrète, évidemment, de la vie intime du prophète, à travers ses femmes. Ses femmes aussi ont beaucoup parlé. Elles nous ont laissé beaucoup de témoignages très intéressants. Et de ce point de vue-là, vous savez, il y a une anecdote. Parce que je ne vais pas manquer de respect aux prophètes en racontant une anecdote orale qui a été dite sur les prophètes. On dit que un prophète a la puissance sexuelle de 40 hommes. Le prophète Mahomet a la puissance sexuelle de 40 prophètes. Attendez, c'est beau, non?
Oui, c'est beau.
Malek Chebel, Mahomet est un homme donc de plaisir, de chair.
C'est un homme de jouissance, c'est un homme exemplaire en tout.
Et pourquoi c'est important de le dire?
C'est important de le dire parce que ça l'humanise. Ça le rend plus proche de nous, plus sensible. Et qu'on n'a pas l'image effrayante de ce Mahomet qui égorge, qui viole, qui violent tout le monde. Mahomet a été un homme, un époux, un bon époux. Il était polygame, il aimait la chair, la bonne chair, il aimait la vie d'ici-bas. Et il ne s'en cachait pas. Vous savez, l'un de ses bons mots, il a dit « J'ai aimé de votre monde les femmes, les parfums, et la prière. Il a été homme d'abord avant d'être prophète, si je puis dire, dans cette expression. Il a aimé les femmes. Un prophète du monothéisme qui vous dit ça, c'est assez exceptionnel.
Et cet amour des femmes, on le retrouve dans le Coran, Malek Chebel?
Totalement. Le Coran, vous savez, le Coran, c'est un grand livre spirituel. Il ne vous intime aucun ordre spécial, ni aucun interdit. Donc c'est le prophète et le comportement du prophète qui nous sert d'exemple et de boussole, si vous voulez, pour nous orienter dans la complexité du Coran. C'est un livre d'une complexité inouïe.
Si l'on reprend le fil du destin de Mahomet, il rentre dans la Mecque en vainqueur en 630, c'est ça, selon le calendrier chrétien?
En 630, il est pour un petit pèlerinage en pourparlers avec les gens de la Mecque. Oui. C'est là qu'il a pris l'engagement, qu'ils se sont mis d'accord pour l'accueillir pour un grand pèlerinage qui aura lieu un an après.
D'accord. Et donc, il va réussir à unifier Médine, la Mecque, et donc à prendre le pouvoir d'une certaine
tout
façon.
À fait.
On a dit que c'était un homme politique
tout
aussi.
Tout à fait.
Quelles sont ses premières décisions?
La première décision est de détruire les idoles que renfermait la Kaaba, vous savez, le temple noir carré et cubique.
Qui est dans la mosquée.
Qui est dans la grande mosquée autour de laquelle tournent les musulmans quand ils vont en pèlerinage. Il était plein d'idoles, 360 d'itabari. Donc il supprime tout ça pour ne laisser que la Kaaba elle-même qui symbolise, si vous voulez, l'unicité de Dieu.
Les grandes règles du pèlerinage, par exemple, du Hajj, ça date de cette époque?
Alors, je vais raconter une histoire qu'on ne dit jamais. C'est que beaucoup de rites religieux sont pré-islamiques. Ils ont été ennoblis par le Coran. Par exemple, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est avant l'islam. Le fait de l'eau de Zamzam, qui est la fontaine sacrée de la Mecque, elle date d'Abraham. Elle date d'Abraham. C'est la femme Agar, qui est la concubine d'Abraham, par rapport à Sarah, qui est la femme légitime, si vous voulez, qui a été chassée de là-bas, qui crée de certaine manière la fontaine de Zemzem. Et tous les rites autour de, par exemple, l'égorgement du mouton, pour le grand pèlerinage, eh bien, il date de cette époque-là. C'est très, très ancien. C'est un hommage à Abraham, plus qu'à Mahomet, puisque nous, on récupère le rite qui existe déjà avant l'islam.
Quelles sont les grandes réformes mises en place par le fondateur de l'islam? Vous allez continuer de nous les faire découvrir, de nous les expliquer aussi. C'est passionnant, Malek Chebel. Et puis on va vous raconter aussi l'après Mahomet. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et on découvre la vie de Mahomet, le prophète des musulmans, le modèle de la première religion monothéiste au monde, grâce au philosophe Malek Chebel. Quelles sont, Malek Chebel, les grandes réformes mises en place par Mahomet avant sa mort, quand il domine finalement l'Arabie?
Quand il domine l'Arabie.
C'est concret, c'est le mariage, c'est l'héritage. Qu'est-ce qui change à l'époque?
Tout change. C'était une autre société. On rentre dans une autre échelle. Le riche, le pauvre, le noir, le blanc, la femme, l'homme, tous sont sur le même pied d'égalité. L'islam introduit une grande règle, c'est l'équivalence totale des êtres humains par rapport à la foi. Et dès lors que quelqu'un a la foi, c'est lui qui va être privilégié. Donc c'est pas votre richesse matérielle, c'est pas vos alliances, c'est pas votre famille. Il n'y a pas de pédigré, il a tout aboli de ce côté-là pour dire que la personne va se valoriser par la spiritualité dont elle fait montre.
Quelques questions de Béotiens pour bien comprendre, Malek Chebel. Par exemple, est-ce qu'il existe des reliques de Mahomet comme le Saint-Suaire de Jésus pour les chrétiens?
Oui, mais moi je les conteste. Ça existe, évidemment. Quand vous allez dans les musées arabes ou musulmans au sens large, il y a un musée qui vous dit, voilà, c'est le manteau du prophète. Il y a un autre musée qui vous dit, il y a la barbichette du prophète. L'autre, il vous dit les sandales du prophète.
C'est du folklore?
Oui, globalement, parce que tant que c'est pas passé par le carbone 40 et tout ça, je pense que c'est un peu touristique, quoi.
Est-ce que c'est Mahomet qui a dicté aux femmes de porter le voile, Malek Chebel?
Donc, il n'a rien dicté du tout. Pas ni Mahomet, ni le prophète, ni le Coran, d'ailleurs. Il y a un verset dont on n'arrive même pas à comprendre le sens, qui dit « Ramenez sur vous votre vêtement, votre djilbab ». Le mot djilbab n'existe plus dans le dictionnaire arabe d'aujourd'hui. On pense même que c'est peut-être de l'araméen, une langue un peu extérieure.
Ça s'adresse aux femmes.
Ça s'adresse aux femmes et on ne sait pas quelles femmes. Parce que c'est venu dans un contexte où il parlait des femmes du prophète.
C'est-à-dire qu'on a tiré cette petite phrase pour...
Oui, mais c'est exactement, l'extrapolation est là. Et on n'est pas sûr s'il a parlé des femmes du prophète. Ô prophète, voilez vos femmes personnelles, de votre harem quand elles sortent de chez elles, pour qu'elles soient reconnues. Au départ, c'est positif. Pour qu'elles soient reconnues, pour qu'elles ne soient pas offensées
Pour les distinguer, en fait, pas pour les cacher.
Pour les distinguer, pour qu'on sache, attention, la danger, c'est les femmes du prophète. Ou alors, si c'est les femmes de tous les musulmans, vos femmes de tous les musulmans, l'expression, je la vois, c'est pas tout à fait coranique, le prophète n'a jamais dit qu'il était le possesseur de toutes les femmes des musulmans.
Et donc, alors, pardon, on va continuer de poser des questions vraiment de béotiens qui ne connaissent pas la religion musulmane. Mais par exemple, la Mecque, c'est réservé aux hommes ou les femmes peuvent y aller ?
La Mecque, c'est ouvert pour tous les croyants. Je vous ai dit qu'il a aboli le fait d'être un homme, être un blanc, être un noir, être un riche, un pauvre, etc. C'est aboli. C'est le croyant et la croyante. Le Coran parle essentiellement. Il ne dit pas les hommes et les femmes, il dit les croyants et les croyantes. Essentiellement. Il lui arrive de dire ça quand il s'agit d'affaires, par exemple, d'accouchement ou de affaires féminines spéciales. Mais pour le reste, il dit croyant et croyante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque, il y a 3 millions cette année et demi de pèlerins qui reviennent de la Mecque. Ils sont mixtes, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes à peu près, évidemment, parce que et l'usage veut que tout ce monde-là se mélange totalement, par exemple, notamment en tournant autour de la Kaaba. Ce n'est pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc, vous voyez, c'est des choses, il faut les rétablir à leur juste niveau, quoi.
Autre question, est-ce
l'interdiction
que
de consommer
c'est,
de l'alcool,
oui, voilà, exactement.
Alors, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas d'interdiction. Pendant quelques années, il n'y avait pas d'interdiction. Mais apparemment, selon les historiens, on a constaté que des gens ivres venaient à la mosquée. Donc il a commencé à mettre quelques barrières, si vous voulez, en interdisant l'ivresse. Le vin.
Mais pas l'alcool.
Mais l'alcool, il n'y avait pas d'alcool. C'était le vin, le nebid. C'est un vieux, une vieille piquette que personne de, qui n'avait aucune valeur intrinsèque. Il avait interdit aux gens de venir ivre à la mosquée. Et évidemment, comme toujours, les théologiens ont élargi le champ pour être sûr de ne pas commettre d'erreur.
Et d'où vient l'obligation de manger halal, Malek Chebel ?
C'est dans le Coran, ça, par contre. Ça, c'est dans le Coran. Il a dit, il faut pas... En fait, je vais vous dire, le Coran a repris l'ensemble des interdits alimentaires juifs. Ce sont les lois mosaïques. Depuis Moïse, c'est les mêmes choses. Le sang, la viande non immolée, au nom de Dieu. Si vous l'immolez au nom de Dieu, c'est halal. En fait, le fait, c'est pas tellement le fait d'immoler que de l'immoler au nom d'Allah. C'est une consécration. Et en plus, ça remonte, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça remonte jusqu'à Abraham. Mmh.
Les musulmans continuent-ils de réinterpréter oui. tout ce que
oui,
Mahomet
tout à fait,
a pu dire.
Tout à fait, mais à petite voix malheureusement. Parce que depuis des siècles, évidemment, les questions se posent et les musulmans ont le devoir, ont l'obligation d'interpréter et de réinterpréter en permanence. Mais timidement, parce que les autres écrivent plus fort. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Changer l'islam », un dictionnaire des réformateurs musulmans du début à nos jours. Mmh. J'ai dénombré 300 grands réformateurs qui ont posé toutes ces questions-là et qui les ont traitées en fonction des lois du moment.
Dernier mot, comment est-il mort et à quel âge ?
Il est mort tranquillement, à 62 ans, dans les bras de sa femme Aïcha, sa troisième femme, sa préférée, dit-on. Avec l'accord des autres femmes, d'ailleurs. Et il en avait 9 au moment où il
est... Quand on dit dans les bras, il ne faut pas faire d'amalgame ou c'est un amalgame ?
Dans les bras, non, dans les bras. Enfin, sur les genoux, très exactement.
D'accord.
Bon, donc il est mort, disons, chez lui, de mort naturelle, avec dans les bras de Aïcha.
Il avait prévu sa succession ?
Non,
Mahomet.
Justement, il n'avait pas prévu de succession. Il n'avait pas eu de garçon mâle. Il n'avait, à l'époque, dans toutes les lois anciennes, c'était le mâle qui assurait la succession. Et il n'avait eu que des filles et pas de garçon. Et il a eu un garçon, il est mort à un âge très, très bas. Donc, il n'avait pas laissé de consignes très précises. D'où les problèmes de la succession. D'entrée de jeu, les musulmans vont se faire une guerre inouïe uniquement pour succéder au prophète. Et d'où le schisme chiite-sunnite, il date du lendemain de la mort du prophète. Ça a démarré là. Chiite-sunnite, ça date de 14 siècles. Et par la suite, il y a eu des dynasties, il y a eu des confréries, etc., qui toutes se sont bagarrées pour la succession.
Merci beaucoup,
Malek
Chebel. Bonsoir. On va rappeler le titre de votre dernier livre, L'érotisme arabe, qui est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Parce qu'il y a juste une vie sexuelle du prophète que je raconte dans ce livre.
Merci,
on a bien
c'est
compris.
Un plaisir de vous parler. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site rtl.fr. Nous, on se retrouve demain à 20h.
Vous écoutez RTL.